de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il suffit, en écoutant les conversations entre Marie Shaikevitch et Roger Pilaudin, d'extraire le nom d'une des célébrités dont elle parle et qu'elle a fréquentée, pour que toute la modernité artistique et littéraire de la fin du XIXe siècle et de la première partie du XXe sorte de l'ombre où notre oubli l'a reléguée. Ainsi en est-il d'Anatole France, d'Anna de Noailles ou encore de Madame de Loanne, beauté somptueuse, dont on peut admirer le portrait peint par Amaury Duval au musée d'Orsay. Elle fut la muse amante de Jules Lemaître et l'une des grandes passions de Flaubert. Madame de Loanne tenait un salon dans lequel se retrouvaient Ernest Renan, Sainte-Beuve et Théophile Gautier, et où plus tard elle recevra Georges Bizet, Paul Bourget, Marcel Proust. Marie Shaikevitch fréquenta les salons les plus en vue avant de fonder le sien, où se rencontraient par exemple Marcel Proust et Reynaldo Hahn. Témoin privilégié, elle a vécu dans la proximité des personnalités les plus inventives de son temps. Elle a assisté à leurs rencontres et participé à leurs échanges. Elle nous permet, par la grâce de ses récits, de prendre un contact vivant avec tous ceux qu'elle a connus. Enregistrée en 1960, Marie Shaikevitch avait alors 78 ans. Ses émissions, au nombre de 12, et que nous diffusons par 3 pendant 4 nuits, nous transporte dans un autre temps. Dans cette deuxième série, nous allons faire connaissance avec Gabrielle D'Annunzio, Anna de Noailles et quelques-unes de ses autres amies.
Souvenirs et portraits par Marie Shaikevitch. Une émission de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, Gabrielle D'Annunzio. Lecteur, René Farabet.
Madame Shaikevitch, parmi tous les souvenirs que vous avez, vous venez de découvrir celui-ci, ce petit objet, qui est l'étoile de Fiume, je crois.
Oui. L'étoile de Fiume m'a été envoyée par mon ami, je peux le dire, D'Annunzio, en 1920, quand la femme de Marcel Boulanger et une autre de mes amies sont allées en Italie. Marcel Boulanger, comme tout le monde le sait, était très lié avec D'Annunzio, et tout de suite après la guerre, au moment des événements italiens, il a envoyé sa femme en Italie et D'Annunzio les a reçus admirablement. Il y avait sa femme et une autre de mes amies dont je n'ai pas à dire le nom. Et quand ces deux femmes sont arrivées chez lui, il a dit « Il y a une personne à Paris que j'aime par-dessus tout, je m'excuse de ce peu de modestie, c'est Marie la Blanche. Voulez-vous lui remettre de ma part l'étoile de Fiume ?» qui est un ordre que j'ai fondé après avoir survolé Fiume. En me remettant ça, il y avait une grande lettre pour me dire ceci et sa photographie avec un bandeau sur l'œil parce qu'il avait été blessé au moment où il survolait Fiume. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu la vue très abîmée.
Eh bien, si vous le voulez, aujourd'hui, nous allons parler de Gabrielle D'Annunzio.
Ce sera un grand plaisir pour moi parce que les relations que j'ai eues avec lui ont été cordiales, affectueuses et même très tendres, bien que dès le premier jour, je lui ai dit que pas un cil de ma personne ne serait jamais amoureux de lui. Dieu merci.
Et ce jour était quand?
Eh bien, ce jour était un jour où il est venu me chercher pour m'emmener dîner au bois. Et après ce bois, nous avons fait une promenade autour du lac où il m'a fait une grande déclaration et je lui ai dit « Voulez-vous que nous restions de très bons amis ? C'est une chose très agréable pour moi. Je n'ai aucune confiance dans vos déclarations amoureuses, d'autant plus que vous êtes en ce moment très liée avec une de mes amies, Madame de Golubeuf, et un point, c'est tout.
C'était donc vers 1910.
C'était peut-être en 11, quelque chose comme ça, 11 ou 12.
Eh bien, voudriez-vous nous le montrer maintenant?
Ah, D'Annunzio se présentait. Il était petit de taille, mais dans des vêtements très ajustés. Et ce qui frappait surtout, c'était son visage pâle et même glabre. Il avait un fort nez, très bien dessiné, une bouche très mince, surmontée d'une petite moustache complètement rasée, qui se terminait par une petite barbe qui était presque invisible. Il avait l'air d'être passé au papier de verre. Il avait le crâne complètement dénudé et il accentuait cette nudité pour se donner un profil de médaille. Et ce qui vivait seul dans son visage, c'était d'admirables yeux noirs, deux touches noires, très vives. Et il parlait avec beaucoup de rapidité. Il s'exprimait très bien en français, d'autant plus qu'il connaissait bien le vieux français. Il employait beaucoup d'archaïsmes qui rendaient quelquefois sa conversation un peu précieuse. Mais il était rapide, il était spirituel, il était un peu complimenteur.
Et complimenté.
Oh, complimenté, adoré, adulé. Dès qu'il est arrivé à Paris, il a été entouré d'abord d'un cercle de jeunes femmes qui voulaient qu'il leur fît la cour. Et puis alors, tous les journalistes, tous les écrivains étaient à l'affût pour se parer de tous les mérites de D'Annunzio, qui en avait beaucoup.
À quelle occasion l'avez-vous rencontré?
Je l'ai rencontré tout à fait par hasard. J'étais allée goûter chez mon vieil ami Primoli. Personne ne devait venir ce jour-là. On a sonné, D'Annunzio est arrivé. Et nous étions tous les trois à parler.
Qui était Primoli?
Le comte Primoli, c'était, comment dirais-je, l'homme le plus mondain qui soit, l'hôte le plus charmant. Il passait toujours 2 ou 3 mois en France. Le reste du temps, il le passait à Rome, où il a un très beau palais. C'était le neveu de la princesse Mathilde et le descendant de Lucien Bonaparte. On annonçait son arrivée. On disait, voilà Gégé qui va arriver. Mardi, mercredi, tous ces jours étaient pris d'avance. Quand on voulait avoir Gégé, il fallait prendre des numéros, comme pour monter en autobus.
Et c'est donc chez lui que vous avez fait la connaissance D'Annunzio.
J'ai fait la connaissance de D'Annunzio chez lui, parce qu'il lui recevait tout Paris, tout le monde littéraire, artistique, tout le monde napoléonien, tous les Murat, tous les Delkingen, Rivoli, Camastra, etc., etc.
Et c'était une chose importante, je pense, pour vous, de rencontrer D'Annunzio.
C'était très agréable pour moi de rencontrer D'Annunzio, parce que je l'admirais beaucoup. J'avais lu les traductions de Gabriel Herrel, j'avais rencontré Herrel, nous avions beaucoup parlé de lui, et puis il était célèbre par ses amours. J'avais naturellement lu Et l'enfant de volupté et tout ça, et les Laudi. Et je connaissais toutes les légendes qui avaient entouré son enfance. On avait dit qu'il était né dans une parencelle au bord de l'Adriatique, balancé par les vents, etc. C'était une légende car il était né à Pescara, un petit port de pêcheurs où ses parents habitaient. Mais sa mère s'est écriée quand il est né. Qu'est-ce qui va t'arriver, mon fils? Tu es né un jour de mars et un vendredi. Tu vas faire de grandes choses. Il était destiné de parler de l'amour, de la mort, de la gloire, de la mer et de la nature.
Pourquoi venait-il à Paris?
Faut-il le dire? Il venait à Paris parce qu'il avait des dettes. Il avait vendu une petite propriété, enfin il ne pouvait pas rester et vivre en Italie comme il avait vécu sur un très grand pied. Alors il a préféré venir en France. Il a vécu à Paris dans plusieurs appartements qui avaient tous le même cachet. C'est-à-dire, quand on arrivait chez D'Annunzio, on était frappé par la multitude des choses qui étaient étalées chez lui. Ça tenait de la boutique, de l'antiquaire ou de l'alchimiste. Il y avait des chasubles qui se traînaient par terre et sur des meubles. Il y avait des livres précieux, il y avait des dagues, il y avait des instruments dont on ne savait pas l'origine ni l'emploi. Et puis alors beaucoup de verreries italiennes, très fragiles, très minces, des grands cols qui ne tenaient qu'une rose ou une fleur extraordinaire.
Mais est-ce qu'il avait un comportement aussi baroque, une vie aussi baroque qu'à Paris ?
Pas du tout. Et il passait son temps à faire la cour aux femmes, à aller déjeuner, dîner en ville et à s'enfermer pendant des jours et des semaines à travailler avec acharnement. Car c'était un travailleur féroce.
Quels ont été ses amours les plus brûlantes à Paris ?
Madame de Golubeuf, qui était une très belle personne russe, avec l'allure d'une grande Suédoise et qui avait connu D'Annunzio précédemment en Italie. Elle en était devenue absolument folle, elle s'est séparée de son mari et elle a vécu avec D'Annunzio. C'était ça, ses grandes amours. Après, il a fait la cour à toutes les jolies femmes de Paris.
Et c'est à cette période de sa vie parisienne, en 1911, je crois, qu'a été créé le martyre de Saint-Sébastien.
Oui, il a été créé avec une grande somptuosité de détails et de représentations. Ida Rubinstein était admirable plastiquement. Elle était d'ailleurs toujours admirable, aussi bien dans les ballets russes quand elle dansait, ou plutôt qu'elle mimait parce qu'elle ne dansait pas, qu'après, quand elle a voulu réciter et... À ce moment, tout le monde a été étonné de la manière dont D'Annunzio avait manié le verbe français, le vers français. Il connaissait admirablement le français archaïque, le vieux français, et il a dédicacé cette œuvre à Maurice Barrès. La musique était de Debussy, qu'il a appelé Claude de France.
Je vous offre mes vers de France parce que j'aime vos proses d'Italie, mon cher Maurice Barrès. Ce poème, composé dans le pays de Montaigne et de la forte résine, je vous le dédie parce que vous avez trouvé vos cadences les plus harmonieuses à Pise, à Sienne, à Parme, dans le sépulcre de Ravenne, dans les jardins de Lombardie. Mon Sébastien, que j'ai dessiné ayant sous les yeux cette plaquette d'Antonio del Pollainolo, où un svelte centaure domine du poitrail les archers à deux pieds, mon Sébastien parle quelque part du tendon de bête qui s'ajuste au fût de son arc doublé et qui s'y colle de façon à ne faire qu'un avec lui. Je pense au nerf animal dont se double la spiritualité de votre art. Je pense aussi, devant certaines de vos paroles, à ces divines abeilles prises dans l'ambre claire qu'un de mes humanistes semble avoir célébré en l'honneur de votre muse dans un épigramme votif. Aucun ne pourra certes comme vous comprendre le singulier plaisir que me donnèrent ma hardiesse et un si haut danger. Un soir, aux approches de Sparte, en vue de Tégète et de l'Eurotas, un seul mot rayonna sur l'héroïsme de votre esprit, le plus beau de l'Occident. Il y a un autre mot de la plus grande espèce latine qui ne me semble pas moins beau, puisque je veux le voir toujours coloré de mon meilleur sang et du sang de mes pères, l'intrépidité.
Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés au moment de cette création avec l'archevêché ?
Grande difficulté, quelques jours avant la représentation, l'archevêque de Paris avait lancé un mandat pour interdire aux fidèles d'assister à cette représentation. Il faut dire qu'à ce moment-là, D'Annunzio a voulu connaître toutes les illustrations françaises et celle qui était la plus éclatante, c'était la comtesse de Noailles.
Et vous l'avez conduit chez la comtesse de Noailles ?
Je l'ai conduit chez la comtesse de Noailles, qu'il admirait beaucoup et qui voulait toujours connaître toutes les illustrations. Et alors il est arrivé avec les bras chargés d'œillets rouges qu'il a achetés devant elle. Il s'est assis au bord de son lit, puisqu'elle recevait toujours au lit, moi à côté d'elle, et la plus éblouissante conversation a commencé entre eux deux. Ils rivalisaient d'éloquence et de subtiles conversations sur tous les sujets, surtout sur la poésie. Et quand D'Annunzio est parti et que je l'ai reconduit chez lui, il m'a dit « Je n'ai jamais entendu parler ainsi. Ça m'a rappelé le plus doux des chants de Rossignol que j'ai entendu de ma vie. » Il avait été ébloui, et elle aussi. Seulement, elle l'avait trouvé très laid. Elle s'imaginait qu'il avait peut-être des cheveux ou je ne sais pas quoi. Or, D'Annunzio était glabre. Il était laid. Il n'avait pas de jolies dents, mais il avait un charmant sourire, malgré tout.
Et quelles sont les autres rencontres qui, à votre avis, ont compté pour lui à Paris ?
Oh, il a connu tout le monde, aussi bien les hommes politiques que tous les grands écrivains. Ce qu'il aimait, il aimait beaucoup la campagne. Et il avait beaucoup d'amitié pour Marcel Boulanger, qui habitait Chantilly. Et c'est avec Marcel Boulanger qu'ils ont créé la course des lévriers. Nous nous sommes rendus avec M. D'Annunzio chez les boulangers à déjeuner un dimanche, et c'est là où il a montré toutes ses farces qu'il pouvait faire. Parce que nous étions invités à prendre un verre d'abord chez Fernand Van der Hem, qui avait une villa à côté de celle des boulangers à Chantilly. Alors D'Annunzio est venu me prendre, et quand il est arrivé, il m'a dit « Mystère et discrétion ». Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Alors il me dit « Voilà ». J'ai apporté toutes sortes de farces. Comme ils sont très fiers de leur installation, surtout Van der Hem, qui vient de me téléphoner, qu'il a mis partout des tapis beige, etc., etc. Moi, je suis passée sur les boulevards, dans cette boutique où on achète toutes sortes de blagues, et j'ai acheté toutes sortes de crottes de chiens et de toutes sortes de blagues. Vous allez m'aider à disposer de ça. Alors, nous sommes arrivés à Chantilly, et avant d'entrer chez Van der Hem, j'ai attiré Van der Hem au dehors. D'Annunzio a passé par la petite porte et il a disposé ses crottes de chien partout. Et puis alors, nous sommes allés chez les boulangers, où il a disposé des encriers renversés sur les tapis, enfin un tas de blagues comme on les fait, comme ça. Et puis nous avons déjeuné. Et puis alors, les invités nous ont dit, nous allons vous faire maintenant les honneurs de notre salon, de notre chambre à coucher, etc. Puis partout, on a trouvé les farces de D'Annunzio, qui était le premier à dire, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Mais comment ce beau tapis? Oh, c'est affreux. Et surtout, Van der Hem, qui n'en pouvait plus. C'est un scandale. Comment est-ce qu'on a laissé entrer les chiens ici? Il était farceur. Il était gay, il était farceur. Et un jour, je l'ai un peu rabroué, parce que en arrivant chez Madame de Saint-Marceau, j'avais, comme toujours, une robe blanche ou noire, et une robe très serrée, comme ça. Alors il a dit, « Chère belle, votre ventre a la forme d'une lyre. » Et je me suis retournée. « J'ai le vôtre, cher maître, d'une tirelire. » Comme il avait cette réputation, moi je n'ai rien dit, je n'ai pas répété ce mot, mais le comte Primoli, qui était une vieille concierge, l'a répété dans tout Paris.
Et c'est à Paris que la guerre le surprit.
Quand la guerre a éclaté, il a été absolument dégoûté par les Allemands. Et quand on a annoncé que la cathédrale de Chartres était bombardée par les Allemands, il est allé voir. Et il n'a pas pu arriver plus loin que Vel, je ne sais pas quoi. Et là, il a vu ça. Et alors, ça a encore animé sa haine contre les Allemands et l'a fait aller en Italie pour soulever l'Italie.
Et vous l'avez revu après la guerre ?
Je ne l'ai pas revu. Il m'a écrit, il m'a demandé d'aller à Gardone. Et quand je suis allée en Italie, il était malade, je n'y suis pas allée. Je l'ai regretté après, mais il a continué à m'écrire, toujours d'une manière absolument adorable.
C'était Souvenirs et portraits par Marie Chekevitch, une émission de Roger Pilaudin. Lecteur René Farabet. Portraits et souvenirs par Marie Chekevitch. Une émission de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, Anna de Noailles. Lectrice, Tony Mag.
Madame Chekevitch, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit, on a beaucoup écrit sur le personnage dont vous allez nous parler aujourd'hui, Anna de Noailles. Quand l'avez-vous rencontrée pour la première fois ?
En 1899.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 14 ans.
Et elle avait 10 ans de plus que vous ?
Oui, c'est ça.
C'était en quelles circonstances ?
J'avais eu à l'école comme amie Mlle Krupi, Lily Krupi, la fille de l'avocat Jean Krupi, qui était devenu plus tard ministre du commerce et ministre des affaires étrangères. Et il avait une charmante femme. Madame Krupi était très bonne musicienne. Elle organisait des réunions 80 rue de l'université dans un grand appartement, et la maison était remplie de jeunesse et de musiciens. Gabriel Fauré y était continuellement présent, et j'ai vu arriver Ravel avec un visage émacié et des bakenbart, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Des favoris,
très maigres, très renfermés et habillés très justement dans une redingote noire. Il y avait aussi Maurice Magre qui avait des yeux intenses qui malheureusement à la fin de sa vie ont été brûlés.
Et c'est chez lui que vous allez rencontrer...
Et alors, un jour, je suis arrivée pour goûter. Je goûtais plutôt dans la chambre de mon ami, qui m'a dit, écoute, il faut aller au salon. Il y a les deux merveilleuses sœurs qui viennent d'arriver. Je dis, qui ça? Elle m'a dit, la comtesse Mathieu de Noailles, la célèbre Anna de Noailles, qui est un grand poète, et sa sœur, la charmante Hélène de Chimay. Alors, je suis entrée et j'ai vu arriver un petit être tout petit, mais qui avait une allure extraordinaire. C'était un petit aigle. Elle avait le plus joli visage, pâle, qu'on puisse imaginer, avec d'énormes yeux que tout le monde croyait être noirs. Et elle aimait à dire, « Regardez mes yeux, vous voyez bien, ils sont gris. » Eh bien, ses yeux n'étaient pas gris. Ils étaient marron très clair avec des points d'or dedans. Elle avait un tout petit nez de face, mais lorsqu'elle tournait sa tête, son profil allongé, elle avait le nez d'un aigle. Elle avait une bouche, tout ce qu'il y a de plus mobile. Elle parlait avec une telle volubilité que personne ne pouvait ni la contredire, ni la faire taire. Mais ce qu'elle disait était toujours d'un bonheur extraordinaire. Elle trouvait une manière de s'exprimer avec éloquence, avec simplicité, avec poésie, avec des envolées extraordinaires et très souvent d'un comique très rare. On pouvait être aussi charmé qu'effrayé de ce qu'elle disait parce qu'elle n'avait peur de rien. Elle disait n'importe quoi Mais c'était toujours quelque chose. Ce n'importe quoi était toujours quelque chose. Parce qu'elle était éloquente, elle était forte et intelligente, et elle savait un tas de choses qui lui étaient venues, on ne sait pas quoi. Parce que rien qu'en respirant, elle attrapait les choses. Je l'ai vue plus tard prendre un livre, ne pas le lire, le humer et savoir ce qu'il y avait dedans. Elle prenait aussi les journaux, elle les reniflait et elle disait tout ce qu'il y avait dedans. Quand elle est arrivée, tout de suite, les personnes les plus en vue se sont groupées autour d'elle. Peu à peu, on ne pouvait plus l'approcher, on ne pouvait même pas la voir. Elle était au milieu comme une espèce de lys, car elle était très pâle, avec un teint de camélia et une ravissante petite main, toute petite, dont elle était très fière et qu'elle aimait beaucoup vous mettre sur les genoux en disant « Regardez ma petite main ». Sa main, sa petite main, portait une grosse bague de saphir entourée de diamants qui était beaucoup trop lourde pour cette petite main, mais ce contraste lui plaisait. Et alors, quand elle parlait, elle prenait ses cheveux qui étaient retournés sur son front, elle les tournait, elle les retournait, elle en faisait une boucle et la plupart du temps, elle défaisait son chignon et au bout de la soirée ou de l'après-midi, les cheveux étaient par terre. Elle avait des cheveux qu'elle qualifiait de raisins noirs et c'est vrai, ses cheveux étaient bleus, noirs, bleus et ravissants. C'était des mèches qui lui obéissaient et qui encadraient son visage d'une manière ravissante. Elle se tournait et elle avait un très joli cou sur lequel, ce qui est très rare pour une femme, il y avait une petite pomme d'Adam. Mais la tête était très fièrement posée sur de ravissantes épaules et elle se tenait très droite.
Sa réputation de poétesse était déjà établie à ce moment-là.
Elle n'avait encore presque rien publié, mais tout le monde voyait que c'était un grand poète et surtout quelqu'un de très personnel, parce qu'elle avait eu un sentiment de la nature que les poètes du 19e n'avaient pas eu. Ainsi, n'est-ce pas, on trouvait les poésies de Théophile Gautier ravissantes, mais il n'y avait pas le sentiment de la nature, de la vraie nature. Ça n'avait pas l'odeur de la nature.
Écoute, ô beau jardin, couler à petit bruit la fontaine, où dès l'aube un bras pieux recueille l'eau qui plaît à la soif de l'herbe et de la feuille, des petits rosiers tors et des arbres à fruits. Viens avec moi ce soir, en doux pèlerinage, vers les massifs touffus et les clairs espaliers, où par la tige courte et forte sont liés les brugnons éclatants au verdoyant treillage. Vois ces fleurs où la guêpe heureuse joue et boit, respire ces parfums que le vent chaud déplisse. Touche ces groseilliers aux bérondes hélices où s'enfonce au sommet un petit clou de bois. L'arôme de l'œillet de la mirabelle fait dans l'air un chemin que suit avidement cette guêpe qui vient blesser en les aimant la prune paresseuse et la pêche si belle. L'heure est suave et lourde, ainsi qu'un fruit mûri. Le temps vivant s'égoutte au bruit de la fontaine. La brise, les pistils, les ailes, les antennes mêlent l'insecte ardent aux pétales surpris. L'arbre sec où les durs abricots s'éclaboussent de ruisselant soleil ou bien d'eau quand il pleut, retient dans son ombrage et son cercle mielleux la fileuse araignée et les abeilles rousses. Sens-tu comme il est vif, sage, divin et beau, le fruit gonflé du suc auguste de la terre. Et sache comme moi, honorer le mystère de la chair tendre, éclose alentour du noyau. Et puis regarde-le, sous ses filets de toile, s'éveiller et verdir le merveilleux raisin. En qui dort le plaisir, en plus nombreux essaims que ne danse la nuit de désir aux étoiles.
Madame Chekhevitch, qu'est-ce qui frappait au premier abord chez Anna de Noailles?
Ce que vous pouvez remarquer en elle, c'était une merveilleuse perception visuelle et en même temps la rapidité de l'élocution. C'était quelque chose de prodigieux. D'ailleurs, quand elle entendait quelqu'un parler, elle étendait sa petite main et elle faisait le geste d'arrêter. La personne qui aurait voulu dire quelque chose ne pouvait jamais y arriver parce qu'Anna arrêtait tout et alors elle se lançait dans un monologue qui emportait tout le monde.
Et cette personne que vous décrivez comme petite et fragile, et l'image de la délicatesse même, avait une voix suffisamment...
La voix
qui
était...
s'imposait.
La voix était charmante, parce qu'elle n'était pas criarde, mais elle était très sonore. Elle était sonore et elle avait des modulations extraordinaires. C'était ou des roucoulements doux, ou des cris, ou elle riait, n'est-ce pas, d'une manière fantastique, en ouvrant grand sa bouche. Alors, la bouche elle-même était d'une sinuosité et d'une mobilité extraordinaires. Parce que lorsque Anna ne parlait pas, sa bouche était toute petite.
Je suppose que ce n'est pas à 14 ans que vos relations avec elle se sont nouées intimement et que c'est
non,
seulement
non,
quelques années plus tard.
Je l'ai beaucoup vue et je l'ai beaucoup vue chez les autres, mais moi je l'ai fréquentée personnellement vers 1905 ou 6. C'est-à-dire 6 ans après, quand j'étais déjà mariée. Anna avait tout particulier. Jamais elle ne mangeait rien. Mais, de temps en temps, elle avait envie de manger un homard ou bien un jambon. Alors, elle prenait dans le plat, avec sa petite main, la moitié de la langouste et du homard qu'elle dévorait et du jambon. Mais la plupart du temps, elle ne mangeait rien.
Et tout le monde était en adoration devant elle.
Ah, tout le monde était en adoration. On ne pouvait pas ne pas l'être, parce qu'elle était absolument comme un oiseau de feu. Un papillon, un oiseau, une émanation tout à fait extraordinaire de beauté, de fragilité et en même temps de résistance, parce qu'elle était extrêmement résistante. Elle avait le charmant petit pied, de charmantes petites jambes, et un corps souple qui n'était jamais très visible parce que tout ça était enveloppé de voiles, de gaz, de je ne sais pas quoi, car elle avait une façon très particulière de s'habiller. Quelquefois, elle était absolument ravissante dans une robe de tulle noire avec un ruban rose passé en dessous. Et puis, quelquefois, comme elle avait le goût des bizarreries, elle allait au sol des grands magasins. Et un jour, je l'ai vue arriver, par exemple, au mariage de mon fils, dans une robe verte et jaune, à grands carreaux, qui faisait d'elle une espèce de perroquet. Mais elle disait, c'est drôle, n'est-ce pas? Je suis comique, disait-elle en parlant d'elle-même. N'est-ce pas que c'est comique de me voir comme ça? Elle s'amusait elle-même de la caricature qu'elle se faisait. Et quand elle voulait, elle était la plus ravissante des femmes. Quand elle mettait une robe en tulle blanc ou noir, surtout en tulle noire, avec des voiles qui lui venaient, avec des colliers de perles. Elle avait toujours des colliers de perles d'ambre, tout ça. Elle jouait avec les choses qu'ont les persans, vous savez, des chapelets de persans. Elle jouait avec ça.
Après ce portrait d'Anna de Noailles dans le monde, j'aimerais maintenant que vous parliez des relations plus personnelles que vous avez eues avec elle pour nous la montrer dans l'intimité.
Eh bien, dans l'intimité, il n'y avait personne de plus curieux qu'elle. Ainsi, la première chose qu'elle m'a demandé, elle dit « Je voudrais que vous me racontiez comment vous avez raté votre suicide. » Et allez donc. Et alors, n'est-ce pas, elle m'a invité à dîner chez elle. J'allais dîner chez elle au pied de son lit sur une petite table de bridge. Les lampes étaient très basse, n'est-ce pas? Et on parlait dans les crotones. Dans la chambre aux crotones, on se faisait des confidences. Et alors, elle vous demandait les choses les plus invraisemblables. Comment était votre mari? Comment, qu'est-ce, quoi, comment? Avec une curiosité, une insistance, pas seulement pour moi, pour tout le monde.
Oui.
Elle voulait tout voir et tout connaître par elle-même.
Oui.
Alors, elle était comme une guêpe qui entrait son dard au plus profond des fleurs. Oui. Je crois que c'est ce sentiment qui lui faisait rechercher les gens les plus illustres. Parce qu'elle voulait savoir comment s'était fait un homme illustre, de quoi s'était fait, et s'il était vraiment digne d'être aussi illustre que ça.
Ne voulait-elle pas aussi les connaître pour les conquérir?
Ah, mais de prime abord, elle voulait conquérir tout le monde, c'était tout naturel.
Conquérante de charme.
Conquérante. Elle racontait alors ses conquêtes de la manière la plus amusante. Par exemple, il y avait des adorateurs inconnus qui lui envoyaient des objets absolument extraordinaires. Une année, c'était un type qui lui envoyait un objet, c'était plutôt un animal qu'elle appelait le cocodec. Ce cocodec était, je crois, quelque chose comme un lézard. Ça venait des Indes, il fallait le nourrir avec des salades et des grains. Et alors, les femmes de chambre ne savaient pas comment faire. Et ce cocodec, de temps en temps, était malade, alors on voulait soigner le cocodec. Elle recevait des choses les plus extraordinaires. Elle aimait ça.
Et je suppose que son influence sur les gens était grande.
Très grande. Par exemple, Madame de Noailles, qui était admirée par tout le monde, avait une manière de persuader les gens et d'obtenir pour ses protégés tout ce qu'elle voulait, de tous les ministres, de tous les présidents du Conseil. Et alors, quand elle voulait protéger quelqu'un ou se mêler de protéger quelqu'un, elle n'hésitait pas, elle obtenait ce qu'elle voulait. Je peux en citer un exemple patent. Quand M. Briand s'est présenté pour être président de la République, M. Pinlevé, dans la coulisse, avait de certaines chances. Eh bien, le matin même, elle a téléphoné rue de Lille pour persuader M. Pinlevé de ne pas se présenter. Elle a employé tous les arguments, mais comme chose extraordinaire, je le dirai quand je parlerai de M. Pinlevé, ce grand savant aimait la politique. Et malgré l'éloquence et malgré qu'il aimait Mme de Noailles et qu'il l'admirait par-dessus tout, tout de même, il n'a pas retiré à ce moment-là sa candidature. Il ne l'a retiré que lorsque l'élection de M. Doumer était assurée.
Alors l'influence, pour une fois, n'a pas marché.
L'influence n'a pas marché, mais Mme de Noailles pouvait téléphoner à tous les ministres. Elle avait, par exemple, une adoration pour le général Mangin. Elle avait auprès de son lit le sabre de Mangin. Elle adorait Mangin. Et quand Mangin a eu des difficultés qu'on sait, elle a fait tout son possible. Et puis après la guerre, elle est allée le voir en Allemagne occupée. Elle aimait les vedettes. Elle aimait beaucoup M. Hériot. Elle trouvait qu'il avait des yeux ravissants, qu'elle qualifiait de deux grains de café noir. Elle aimait beaucoup M. Briand. Elle aimait bien M. Barthoud, mais moins.
Est-ce qu'il y avait des gens qu'elle n'aimait pas? Et est-ce qu'elle était capable de, disons, de gestes qui seraient le contraire de la bonté?
Quelquefois, elle était vive et elle pouvait être cruelle. Par exemple, pour les jeunes générations qu'elle n'admirait pas, elle n'était pas bonne.
Un peu de jalousie.
Ce n'était pas de la jalousie, c'était... Je sais, par exemple, qu'à un moment donné, j'avais été à une réception. Je ne me rappelle plus où, je sais que c'était à Passy. Et que des jeunes étaient là qui avaient eu du succès, eh bien, elle les a critiqués énormément. Et ces jeunes gens n'étaient pas en adoration. Elle commençait déjà, son étoile commençait à pâlir. Elle en était extrêmement mortifiée. Car je suis rentrée en voiture avec elle, elle les a traités d'imbéciles. Ils n'étaient pas tous imbéciles.
«
C'était Portraits et souvenirs par Marie Chekevitch. Une émission de Roger Pilaudin. Lectrice Tony Mag. Portraits et souvenirs par Marie Chekevitch. Une émission de Roger Pilaudin. Lectrice Tony Mag. Madame Chekevitch, aujourd'hui encore, c'est d'Anna de Noailles que vous allez nous parler. Après nous avoir fait la semaine dernière son portrait intime, après nous avoir montré Anna de Noailles telle qu'en elle-même, aujourd'hui nous pourrions donner comme sous-titre à cet entretien Anna de Noailles et les autres. Et quels autres, puisqu'il s'agit de toutes les personnalités françaises et étrangères des arts, de la politique, qu'elle aimait connaître au moins autant que celle-ci désirait la rencontrer.
Ah, elle les provoquait, ces rencontres, elle les demandait. Je peux raconter comment elle a voulu connaître M. Kerensky, qui est venu tout de suite après la Révolution russe, en 1917, au mois de novembre, quand M. Maklakov a été nommé ambassadeur du gouvernement provisoire. M. Kerensky, qui n'a pas réussi ce qu'il aurait voulu réussir après la Révolution russe, est venu à Paris. Dès que Madame de Noailles a su que les journaux ont annoncé son arrivée à Paris, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « il faut me l'amener ». Je ne demandais pas mieux. J'ai demandé à M. Maklakov si c'était possible qu'il m'amène M. Kerensky et que nous irions le présenter à Madame de Noailles. Il a dit « mais ce sera très bien ». Alors M. Maklakov est arrivé avec M. Kerensky chez moi et quand ils sont arrivés, ils étaient suivis par toute la police, parce que toute la police française était à ses trousses, parce qu'on ne voulait pas que M. Kerensky fût victime d'un attentat, comme il avait été renversé le gouvernement, n'est-ce pas, qu'il s'était mis dans le fauteuil de l'empereur, etc. On avait peur des Russes fanatiques, des Russes blancs, n'est-ce pas, qu'on tue. Alors, M. Kerensky, en arrivant ici, m'a dit, « Mais vous savez, madame, je ne parle pas. » Pas le français. Je dis, ben tant pis.
Vous étiez monsieur, là?
Monsieur Maklakov, qui parle très bien le français, et moi, nous allons faire les traducteurs, les dolmetschers. Alors, nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés chez Madame de Noailles, nous l'avons trouvée étendue dans sa chambre, comme d'habitude, elle recevait sur son lit, couvert d'une soie jaune. Elle avait ses cheveux dépeints sur ses épaules. Elle avait une petite veste jaune, n'est-ce pas?
Vous dites qu'elle recevait toujours sur son lit. C'était
oui,
une habitude
oui,
depuis toujours.
Depuis qu'elle était malade. Elle avait eu une entérite et une appendicite qui avait été mal opérée. Elle se plaignait toujours de douleurs d'intestin. Alors elle recevait toujours couchée. Alors quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé d'un côté de son lit Maurice Barrès et de l'autre Rostand, auquel elle avait fait part de la prochaine visite de Kerensky et qui était très curieux de le connaître. Alors, j'ai dit à M. Kerensky, je vais vous dire qui sont ces deux personnages. L'un est M. Barrès, qui est un grand écrivain qui a écrit Les Déracinés et puis tout un cycle. L'autre, c'est M. Rostand, qui est l'auteur de Chanteclair et de Cyrano. Ah, moi je sais ce que c'est, me dit M. Kerensky. Je sais qui est Cyrano et je sais qui est M. Barrès, ça va très bien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent me demander? Alors, Madame de Noailles se tourne vers lui et lui dit, mais M. Kerensky, c'est une période extraordinaire que vous avez vécue. Est-ce que vous êtes Danton? Alors je traduis, il me répond, je vous prie, dites-lui que la révolution russe et la révolution française, ça n'a rien à faire. Danton était un très gentil garçon qui n'a plus rien fait du tout. Quand il a épousé une femme trop jeune, il ne pensait qu'à coucher avec elle, vous savez. Alors, je retraduis à Madame de Noailles. Alors, elle me dit, il est bizarre, ce Kerensky. Il veut garder son secret. Alors, je te retraduis de nouveau ça. Il me dit, mais je ne veux rien garder, aucun secret. D'abord, secret du monde entier. En France, vous dites ça, polichinelle. Je retraduis de nouveau ça. Et alors, à ce moment, Monsieur Rostand, qui tortillait sa petite moustache depuis quelque temps, dit, mais il faudrait lui poser des questions un peu sérieuses, un peu sérieuses. Et si vous permettez, c'est moi qui vais l'interroger. Alors, il lui pose un tas de questions dont je ne me souviens plus exactement, mais qui revenaient à ceci. Somme toute, vous êtes un capitaine qui avait laissé couler votre bateau. Dites-nous pourquoi. Voilà quelle était la teneur de tout ce qu'avait dit.
C'est aussi ce que voulait savoir Anna de Noailles.
Et c'était exactement la même chose que voulait savoir Anna de Noailles. Alors, à ce moment, Barrès a pris la parole et il a dit, ceux qui font les actes qu'ils accomplissent, après ils ne peuvent pas les expliquer. C'est à nous de les comprendre. Et moi, je loue M. Kerensky de ne rien expliquer. Je comprends parfaitement ce qu'il veut dire, que les événements ont tourné de telle ou telle manière, n'est-ce pas, et que lui ne peut pas vous faire ici une histoire de la révolution russe, ce n'est pas possible en France, dans ce salon, etc. Et alors là-dessus, Madame de Noailles prend la parole et fait une fresque admirable de la révolution française. Elle parle de Fabre, d'Églantine, le poète, elle parle de tous les révolutionnaires, de Marat, de tout, etc., etc. Kerensky écoutait parce qu'il ne pouvait pas comprendre que quelqu'un ait pu parler et dire tant de noms propres en 5 minutes. En 2 minutes, il en était baba. Il ne comprenait rien, mais il entendait Robespierre, Danton, Fabre d'Églantine, etc. Enfin, tous les noms révolutionnaires. Et il a dit, Какая смешная, comme elle est drôle. A-t-il dit en russe, Какая смешная, comme elle est drôle.
Il avait été victime lui aussi du charme. Une autre chose dont il faut que nous parlions, c'est quand même son sentiment de la poésie. Et là, c'est peut-être...
Ah, c'est magnifique.
Quand alors. Vous avez pu passer un mois dans sa propriété...
J'étais liée avec une jeune femme grecque qui s'appelait Eugénie Antoniadis et qui est devenue sa belle-sœur, qui a épousé son frère Constantin Brankovan. J'étais très liée avec elle, beaucoup plus liée qu'avec Anna à ce moment-là. Et comme elle a épousé Constantin Brankovan, elle avait la propriété d'Amphion, la propriété d'enfance de Madame de Noailles, dans laquelle était installée la vieille princesse de Brankovan, qui était une personne exquise et une grande musicienne, une personne très nerveuse et ravissante. Elle avait le plus joli profil qu'on puisse imaginer. Elle avait une figure angélique. Elle était née Musurus B. Madame de Noailles aimait beaucoup dire qu'elle était grecque. Mais je ne sais pas si sa mère n'était pas plus turque que grecque. Il ne faudrait peut-être pas le dire. Mais enfin, elle était la sœur de Musurus B, qui était ministre en Angleterre. Et Madame Brankovan était une grande amie de Paderewski. Et elle jouait du piano comme une déesse. Elle était la plus jolie créature qu'on puisse imaginer. Elle avait des cheveux blonds mousseux, un joli visage, de très beaux yeux, et on comprenait très bien qu'elle fut la mère d'Anna de Noailles. Et Anna de Noailles aimait à dire que toute sa poésie était sortie du piano de sa maman. Car sa maman jouait d'une manière absolument remarquable, en très grande artiste. Mais elle était très nerveuse, très susceptible, très impressionnable, et très souvent, elle n'admettait pas qu'on l'écoutât. Il fallait s'éloigner dans une pièce voisine pour l'entendre jouer. Chaque pièce d'Amphion, il y avait des pianos où la princesse Branco-Vanmer jouait. Alors, nous nous glissions dans la pièce la plus proche pour écouter sa mère jouer. Et Anna mettait sa petite main dans la mienne et elle me disait, vous voyez, toute ma poésie est sortie du piano de maman.
Mon Dieu, je ne puis pas dire combien est fort mon cœur de ce matin devant le soleil d'or, devant tout ce qui brille et scintille dehors. Faudra-t-il que jamais je n'épuise ma joie de cette eau qui reluit, de cet air qui me noie, de tout ce qui du temps en mon âme poudroie. Viendront-elles un jour, en quelque paradis, ces collines pour qui j'ai tant fait et tant dit, m'apporter la chaleur du parfum de midi. Sera-ce ma naïve et belle récompense que les arbres avec leurs branches qui s'avancent me présentent des fleurs pleines de complaisance? Entendrai-je le fin et patient remous des râteaux de l'été passant dans les cailloux comme des mains qui font un travail long et doux? Aurai-je des maisons aux toits de tuiles roses avec du ciel autour qui glisse et se repose sur les jardins, sur les chemins, sur toute chose. Verrai-je quand le jour jaune va se levant sur les routes, au bord du mur blanc d'un couvent, passer des chariots avec des bœufs devant. Pourrais-je en respirant goûter l'odeur du temps et me faire le cœur si tendre et si cédant que les oiseaux de l'air viendront loger dedans. Ô petite, divine, auguste et grande terre, place des jeux, place des jours et du mystère, puisque l'humain désir en vous se désaltère. Pourquoi faut-il que moi je n'ai jamais cela, ce bon apaisement du corps content et là, et que toujours mon cœur vers vous vole en éclats?
Elle disait ses vers d'une manière tout à fait uniforme. Elle détestait les ports de voix. Elle les disait absolument comme on parle doucement, en regardant un peu par terre, en regardant de temps en temps. Elle exhalait comme un petit parfum discret d'héliotrope.
Mon âme de peine et de joie, celle qui s'élance ou qui ploie, toujours pleine de vifs accords. Mon âme si proche du corps, mon âme grave et fraternelle qui porte toute chose en elle, mon âme d'ombre et de tourment, et celle qui verse âprement le sang de la tendresse humaine, tandis que le désir vous mène sans repos, sans paix et sans peur dans la vie où pleurent les cœurs. Allez par les rues de journée, ô mes âmes désordonnées.
Et alors, avec elle, à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de promenades. Elle aimait à se rappeler que c'était dans cet endroit-là qu'elle est née à la poésie, et elle a préféré toujours la Savoie à tous les pays les plus beaux qu'elle a connus, que ce soit Sorrente, que ce soit l'Italie. Elle a toujours préféré les vallonnements doux de la Savoie et son lac qu'elle adorait.
Et la dernière fois que vous l'avez vue ?
La dernière fois que je l'ai vue, ça m'a fait tellement de peine.
Elle était très malade ?
Elle était mourante. Elle me disait qu'elle était perdue. Et quelqu'un était venu la voir quelques jours avant et lui avait dit « Anna, vous serez une très jolie vieille dame. » Elle s'est fâchée, elle a dit « Mais c'est que je ne veux pas être une vieille dame. » Elle est morte 8 jours plus tard. Elle était dans un état de résignation complète. L'abbé Munier était venu la voir, et elle avait eu, elle qui était incroyante, n'est-ce pas, et qui niait tout, revenait à la religion catholique.
Pourtant, tu t'en iras un jour de moi, jeunesse. Tu t'en iras tenant l'amour entre tes bras. Je souffrirai, je pleurerai. Tu t'en iras jusqu'à ce que plus rien de toi ne m'apparaisse. La bouche pleine d'ombre et les yeux pleins de cris, je te rappellerai d'une clameur si forte que pour ne plus m'entendre appeler de la sorte, la mort entre ses mains prendra mon cœur meurtri. Pauvre amour, triste et beau, serait-ce bien possible que vous ayant aimé d'un si profond souci, on pût encore marcher sur le chemin durci où l'ombre de vos pieds ne sera plus visible? Revoir sans vous l'éveil douloureux du printemps, les dimanches de mars, l'orgue de Barbarie, la foule heureuse, l'air doré, le jour qui crie, la musique d'ardeur qui se dit à Tristan. Sans vous, connaître encore le bruit sourd des voyages, le sifflement des trains, leur hâte et leur arrêt, comme au temps juvénile, abondant et secret, où dans vos yeux clignaient, riaient des paysages. Amour, loin de vos jeux, revoir le bord des eaux où trempent, azurés et blancs, des quais de pierre, pareils à ceux qu'un jour, dans les lasses printanières, parcoururent Léandre et la belle Héros. Et quand l'automne roue et feuille les charmilles, où s'asseyait le soir la mante de Rousseau, être une vieille, avec sa laine et son fuseau qui s'irrite et qui jette un sort aux jeunes filles. Ah, jeunesse, qu'un jour vous ne soyez plus là. Vous, vos rêves, vos pleurs, vos rires et vos roses, les plaisirs et l'amour vous tenant. Quelle chose! pour ceux qui n'ont vraiment désiré que cela.
C'était Portraits et souvenirs par Marie Chekevitch. Aujourd'hui, Anna de Noailles. C'est une émission de Roger Pilaudin. Lectrice, Tony Mag.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois les 7, 14 et 21 août 1960. Vous pouvez les réécouter pendant 1000 jours et les télécharger pendant un an en vous rendant sur la page des Nuits via franceculture.fr.